France Inter.
Bonjour à tous. Premier tour d'élection présidentielle au Sénégal. Nous serons en direct de Dakar avec notre envoyé spécial Omar Ouaman. Et ce qui est en jeu, ce sont aussi les relations avec la France. Nous en parlerons avec l'invité du 13h, le géopolitologue Michel Galli, spécialiste de l'Afrique. Nous irons également en Pologne, car Varsovie demande des explications et des comptes à la Russie, après une nouvelle violation de son espace aérien ce matin par un missile de croisière. Un dimanche politique en France avec le dernier jour de congrès du Modem à Pau. Et cet après-midi, la campagne des européennes, Raphaël Glucksmann en meeting près de Toulouse. Dans 4 mois, le début des JO à Paris, le collectif Revers de la médaille s'inquiète toujours du sort réservé aux plus défavorisés. L'ultime étape de la saison de ski à Saalbach, c'est en Autriche, elle vient d'être annulée et nous verrons avec quelles conséquences, hélas, pour le français Cyprien Sarrazin. Et puis pour les nostalgiques des mobilettes et autres meules, rendez-vous à la fin de ce journal. Dans 20 minutes, ce sera l'Esprit Sport, Nathalie Yanetta. Quel programme aujourd'hui ?
Bah mon cher Eric, on va pagayer aujourd'hui. Le champion olympique de canoë, Denis Gargaud, est notre invité après votre journal. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Nathalie. Le temps de ce dimanche, Céline Dacosta, avec un ciel encore bien variable cet après-midi.
Oui, un ciel partagé entre nuages éclaircis et averses sous forme de giboulées, mais elles seront quand même un petit peu moins fréquentes qu'hier.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. Au Sénégal, donc, les bureaux de vote sont ouverts depuis plus de 4 heures. Premier tour d'élection présidentielle. Le président sortant, Macky Sall, ne se représente pas. Il a envoyé, en revanche, son dauphin, l'ancien Premier ministre Amadou Ba. En face, le principal opposant, tout juste sorti de prison, Ousmane Sonko, n'a pas pu se présenter. Et lui aussi a donc envoyé son bras droit, Bassirou Diomaye Faye. Voilà comment cette élection est devenue celle des plans B, avec ses deux favoris. Bonjour Omar Ouaman.
Bonjour Eric.
Vous êtes en direct de Dakar, vous êtes dans un bureau de vote. Le vote des jeunes notamment, est-ce qu'il va être déterminant ?
Oui, 75% de la population sénégalaise a moins de 35 ans. Mais ce matin, ce sont plutôt les parents de ces jeunes qui ont voté en masse. En tout cas ici à Parcelles Assénie, au nord de Dakar, où je me trouve dans l'un des 16 000 bureaux de vote. Il y a de longues queues interminables et ces jeunes sont peu nombreux. Nous sommes en période de Ramadan et ils sont attendus plutôt cet après-midi. Malik, un retraité, a choisi le candidat de la rupture, le candidat anti-système, Bassirou Diomaye Faye.
Bon, j'ai voté pour le changement. C'était un pays jeune. Il faut oser faire le changement. Parce qu'un pays qui a 60% de jeunesse doit pouvoir évoluer dans la douceur. Mais on souhaite que Dieu nous donne le meilleur.
Alors il faut dire que depuis ce matin, j'ai rencontré une très grande majorité de Sénégalais qui ont fait le même choix, celui du changement après de nombreux rebondissements et notamment le report de cette élection qui aurait dû avoir lieu il y a un mois, un report qui a provoqué la colère des Sénégalais très attachés au bon fonctionnement des institutions du pays. Ce matin, Fatoumata ne cachait pas son soulagement.
C'est un grand jour, tout est bien qui finit bien, quel que soit le président qui arrive, on attend beaucoup de lui.
Vous votez pour le changement ?
Je vote pour le changement. L'éducation de nos enfants, ça piétine, la santé, la corruption, c'est ce que nous retarde. Voilà.
Mais Omar, qu'est-ce qui est en jeu réellement avec cette présidentielle aujourd'hui au Sénégal ?
Alors, il s'agit de choisir entre deux projets diamétralement opposés, portés par deux candidats qui font effectivement figure de grands favoris, celui de la coalition au pouvoir. Vous l'avez dit, Eric, Amadou Ba, désigné par le président Macky Sall. Amadou Ba s'inscrit donc dans la continuité. Il y a celui de Bassirou Diomaye Faye, le candidat anti-système. Il propose un programme de rupture, sortie du franc CFA, plus de souveraineté, la fin de l'emprise économique de la France ou encore la renégociation des accords de pêche et de défense. Aminata n'a pas fait ce choix. Elle pointe l'inexpérience de Bassirou Diomaye Faye, inspecteur des impôts qui n'a jamais occupé de fonction politique.
Ah, je suis venue pour choisir le président Amadou Ba, bien sûr, qui est dans le domaine du gouvernement et qui maîtrise bien la diplomatie, les dossiers étatiques.
Et le candidat du changement de la rupture, Bassirou Diomaye Faye ?
Oh, confier le pays à quelqu'un qui ignore vraiment les enjeux, ça serait aller droit au mur.
Alors ici, à ce stade, la situation est très calme, comme partout au Sénégal. Au total, ce sont 2400 observateurs qui ont été déployés dans tout le pays pour faire remonter les irrégularités ou les éventuelles fraudes. On aura les premières estimations après la fermeture des bureaux de vote à partir de 18h, 19h à Paris. Et ici, Eric, on se projette déjà vers un second tour dans les prochaines semaines.
Et on suivra ça évidemment sur France Inter. C'était Omar Waman en direct de Dakar et j'accueille Michel Galli. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géopolitologue spécialiste de l'Afrique. Ce qui se joue aussi dans cette élection sénégalaise, on l'a entendu, c'est le partenariat avec la France. Comment serait revu ce partenariat si le candidat de l'opposition remportait ce scrutin?
Alors le programme d'Ousmane Sonko et de son candidat par substitution, hein, comme vous l'avez dit, Bassirou Diomaye Faye, c'est un peu de sortir du franc CFA, mais peut-être pas tout de suite. D'abord de négocier une monnaie plus forte au niveau de l'Afrique de l'Ouest, CDAO ou UMOA, et si ça ne marche pas, en quelque sorte, d'avoir une monnaie nationale sénégalaise. Et ensuite, ça serait peut-être la remise en cause des accords de défense avec la base militaire française et surtout des rapports, comme on l'a dit, moins inégaux, des rapports qui sortent de la France-Afrique, une sorte d'indépendance économique, enfin, après l'indépendance politique des années 60.
Oui, plus de souveraineté pour le Sénégal. Il faut dire que ce partenariat entre le Sénégal et la France, il est parfois perçu, et de plus en plus d'ailleurs, comme du néocolonialisme. Il le dit d'ailleurs le candidat de l'opposition, et ça infuse sur une partie de la population sénégalaise.
Oui, absolument, et notamment via les réseaux sociaux, bien que la situation au Sénégal n'ait rien à voir avec ce qui s'est passé au Sahel, où la France a été mise dehors, comme vous le savez, du Mali, du Burkina et du Niger. Il y a quand même cette revendication de la fin de la France-Afrique, de la fin des rapports néocoloniaux, d'autant plus qu'il y a de nouvelles ressources au Sénégal en pétrole et en gaz qui permettraient au fond d'une répartition plus équitable sur le plan intérieur et de renégocier les accords avec Paris.
Mais le Sénégal a longtemps fait figure de stabilité dans cette Afrique de l'Ouest. Cette stabilité sénégalaise, est-ce qu'elle serait menacée si le candidat de l'opposition, Bassirou Diomaye Faye, remportait la présidentielle?
Alors à mon avis, bien au contraire, le Sénégal c'est un exemple non pas forcément d'une vie totalement apaisée sur le plan politique, puisqu'il y a eu toujours des morts, encore récemment, hein. Il y a eu 4 morts, des blessés, des emprisonnés, au moment où Macky Sall a tenté au fond de reporter jusqu'en décembre les élections présidentielles, mais parce que l'alternance à plusieurs reprises a fonctionné, vous voyez, notamment avec la succession après Senghor, après Abdou Diouf, après Abdoulaye Wade. C'est ça au fond, malgré les aléas et les émeutes et les morts, c'est ça le succès démocratique du Sénégal.
Comment est-ce que les Russes soufflent sur les braises pour contester notamment ce partenariat français avec le Sénégal?
Alors bon, pour une fois, je dirais ils sont en retrait, comme d'ailleurs la diplomatie française ou le président français qui ont fait à juste titre profil bas, hein, qui n'ont pas attisé les braises ni de colonialisme ou d'anticolonialisme, mais les Russes, ils sont en position d'attente au fond dans toute l'ère d'influence française. Mais dans le cas du Sénégal, on ne peut pas dire qu'ils soient intervenus d'une manière ou d'une autre pendant la campagne.
On a entendu pourtant des Sénégalais s'en prendre de plus en plus à la présence française et vous n'y voyez pas une influence des Russes par les réseaux sociaux notamment?
Non, pas forcément. C'est sûr qu'il y a eu, comme dans d'autres pays, quelques individus dans les manifestations avec des drapeaux russes. Et il y a eu des attaques, effectivement, contre, par exemple, les stations-service, certaines entreprises françaises, parmi les émeutiers des mois précédents. Mais pas vraiment des réactions, comme on l'a dit, ce qui s'est passé dans les États du Sahel, contre, par exemple, les ambassades ou les centres culturels français.
Et les Russes, tout de même de plus en plus présents en Afrique, au Sénégal, c'est aussi pour le gaz et le pétrole sénégalais?
Alors là, oui, bon, mais c'est un peu toute la planète, hein. Ça attire les appétits des majors américaines, des entreprises françaises. Et ce qui se fait dans des pays qui veulent conserver de bonnes relations avec la France, mais tout de même, c'est une ouverture, vous voyez, à d'autres entreprises, par exemple pour le pétrole, autre que les Françaises, c'est-à-dire au fond de diversifier la clientèle.
Merci beaucoup Michel Galli de votre éclairage. Je rappelle que vous êtes géopolitologue et spécialiste de l'Afrique. Ça n'a duré que 39 secondes dans le ciel polonais, mais suffisamment pour mettre en alerte l'aviation polonaise et ses alliés. Un missile de croisière russe a violé l'espace aérien de ce pays membre de l'OTAN. À l'aube ce matin, Moscou avait intensifié ses tirs contre l'Ukraine, des attaques aériennes contre les villes de Kiev et la région de Lviv dans l'ouest de l'Ukraine. Eh bien, du coup, Varsovie va demander des comptes à la Russie. Correspondance à Varsovie de Martin Chabal.
Pendant 39 secondes, les responsables de l'armée polonaise ont gardé les yeux sur leur radar. De longues secondes où le missile russe est entré en Pologne à près de 800 km/h à 400 mètres au-dessus de la tête des Polonais. Mais ce missile n'a pas été abattu. Le commandant opérationnel des forces armées, Maciej Klich, a expliqué ce matin que la Pologne agit dans des conditions de paix. Et détruire ce type de missile qui transporte des explosifs pourrait retomber sur un hôpital ou une maison et tuer des gens. Alors l'armée a suivi le missile en étant persuadée, vu les conditions, qu'il allait retourner sur le sol ukrainien. Et cette fois, elle est sûre à 100% qu'il ne s'est pas écrasé en Pologne. Je dis cette fois parce que deux missiles se sont déjà écrasés en Pologne. Une première fois à la frontière, un missile est tombé sur une ferme faisant deux morts, mais c'était une fusée de défense anti-aérienne ukrainienne qui avait fait fausse route. Et une deuxième fois, un missile s'est écrasé à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière dans une forêt polonaise sans que personne ne le sache. C'est un promeneur qui l'avait découvert trois mois plus tard. Alors ce matin, le gouvernement a réagi et il exigera des explications à la Russie pour cette nouvelle violation de l'espace aérien. Martin Chabal pour France Inter à Varsovie.
En Russie, c'est une journée nationale de deuil après le massacre, au moins 133 morts, dans cette salle de concert près de Moscou, attentat revendiqué par l'État islamique. Mais le narratif de Vladimir Poutine privilégie une piste ukrainienne. Eh bien, c'est une méthode d'autocrate, disait il y a quelques minutes sur France Inter Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur.
On est dans une autocratie, donc on sait que les narratifs utilisés par les autocrates, et en particulier par Vladimir Poutine, qui est sans doute l'un des autocrates les plus chevronnés, hélas, que nous ayons actuellement sur la planète. C'est un échec d'abord de ses forces de sécurité, le FSB. Voilà, donc il va utiliser maintenant ce narratif pour essayer de retourner la situation. On peut s'attendre à tout avec lui de toute façon, on le sait. Cela veut dire que pour nous, il faut être encore plus vigilant qu'auparavant. On a du reste critiqué les propos du président de la République dernièrement qui nous indiquait à nous tous, Européens, qu'il fallait surtout pas baisser la garde. Et on voit que c'est absolument nécessaire. Parce qu'on connaît Vladimir Poutine et on connaît comment il va essayer de retourner la situation. En tout cas, il faut nous y préparer.
Thierry Breton avec Karine Bécard, il y a quelques minutes sur France Inter. Le pape François n'a pas lu son homélie ce matin pour la messe des Rameaux, ce qui est extrêmement rare, même si le souverain est resté pour présider la messe. Ces dernières semaines, le pape, qui est âgé de 87 ans, avait fait appel à un assistant pour lire ses discours à sa place, ce qui n'a pas été le cas ce matin, donc.
France Inter, le journal de 13h, Éric Delvaux.
Dernier jour de congrès pour le Modem, ça se passe à Pau. Ce Modem qui se voit comme l'axe central de la majorité. Le Premier ministre est d'ailleurs venu y faire un discours hier. Et ce matin au programme, la chef de file de Renew européenne Valérie Ayer, la présidente de l'Assemblée nationale en visioconférence et l'ex-Premier ministre Édouard Philippe. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
En direct de Pau. Et voilà donc comment François Bayrou se sent pousser des ailes.
Alors en direct de Blois, où l'ancien Premier ministre, en déplacement en Nouvelle-Calédonie, a joué par visio l'amitié polie.
J'aurais aimé être avec vous pour féliciter de vive voix François pour son élection à la présidence du Modem, pour cette nouvelle élection à la présidence du Modem, et te dire, cher François, combien je suis heureux de pouvoir continuer à travailler avec toi.
Pas d'allusion à ses propres ambitions en vue de 2027. La présidente de l'Assemblée nationale, en revanche, a planté son drapeau. Elle se fait le chantre de la proportionnelle, le combat de François Bayrou depuis toujours, Yael Braun-Pivet.
La proportionnelle, on en parle depuis des années et personne ne l'a fait, me dit-on, à chaque rencontre citoyenne. C'est vrai. Et je crois, comme vous, qu'il est temps d'y aller.
Le président du Modem boit du petit lait. Il est encore à la tribune où, après avoir méthodiquement dénoncé l'aveuglement coupable, selon lui, de LFI et du RN, l'esprit de domination de la Russie et de l'Iran qui l'arme, il étaye sa conviction qu'il faut se battre puisque rien n'est écrit quand on chérit l'espoir, peu de doute que le Béarnais se voit le porteur de cet espoir pour les échéances à venir.
Voilà, Laurence Perron, bien en direct de Blois pour ce congrès du Modem avec les moyens techniques de Nicolas Mathias. La campagne des européennes avec Raphaël Glucksmann cet après-midi à Tournefeuille près de Toulouse pour incarner l'alliance entre son petit parti Place Publique et les socialistes, le Parti Socialiste. Et c'est une famille d'ailleurs socialiste réconciliée qui montera tout à l'heure sur scène pour le soutenir malgré les divisions internes. À 4 mois de l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris, le collectif Le Revers de la Médaille alerte une fois encore sur le risque d'exclusion des plus précaires. Les 87 associations et ONG s'inquiètent du sort qui sera réservé aux sans-abri, aux migrants ou bien aussi aux travailleuses du sexe. Faustine Calmel.
Devant le musée d'Orsay et ses visiteurs médusés, des militants grimpent sur les statues des 5 continents.
Allez-y, montez, accrochez.
Non.
Voilà. Donc il faudrait bleu, noir,
allez,
rouge.
Allez, les anneaux, là. On y va.
Ils y accrochent des pancartes JO 2024, le nettoyage social en héritage.
On est le collectif Le Revers de la Médaille. On alerte sur les conséquences sociales des Jeux Olympiques. Ça va être formidable pour 15 millions de touristes. Mais il faut savoir qu'à chaque occurrence de ces grands événements sportifs, les personnes à la rue, les exilés, les travailleurs du sexe, les usagers de drogue, ils sont chassés par les forces de l'ordre, ils sont dégagés de la ville.
Dans Paris, plusieurs statues sont ainsi affublées de messages. Le passe-muraille de Montmartre pour les exilés, repoussé de Paris à l'approche des Jeux, celle de l'avocat Valdec Rousseau aux Tuileries.
Et donc là, on accroche une pancarte qui dit « l'inclusion par l'incarcération ».
Prune Missoff est responsable plaidoyer à l'Observatoire international des prisons.
On a un garde des Sceaux qui se réjouit quand on ouvre des nouvelles prisons, que ça arrive à point nommé. Pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, on va multiplier par 5 les patrouilles de police dans les transports. On va augmenter les audiences de comparution immédiate dans toutes les villes qui accueillent les Jeux Olympiques et Paralympiques.
Avec la crainte d'un non-respect des droits fondamentaux des populations les plus précaires pendant ce qui devrait être la trêve olympique de l'été prochain.
Faustine Calmel. C'est aujourd'hui la fin de la saison de la Coupe du Monde de ski. L'ultime descente à Salbach en Autriche a été annulée il y a quelques minutes. Bonjour Guillaume Batin.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Salbach en Autriche. L'ultime duel attendu donc entre les deux meilleurs de la spécialité cet hiver, le Suisse Marco Odermatt et le Français Cyprien Sarrazin, n'a donc pas eu lieu. Et c'est bien dommage pour le Français.
Ouais, on y a cru hein, tout au long de la matinée. La course devait démarrer à 11h15. Elle a été reportée 3 fois pendant que les pisteurs s'activaient sur cette piste sur laquelle est tombé beaucoup de neige la nuit dernière. Il a fait 15 degrés hier après-midi. De l'eau et du sel ont été injectés dans les parties les plus molles pour faire une piste homogène du début à la fin de la piste. Mais après tout ce gros travail, le podium est en train d'être organisé en ce moment. C'est la petite musique que vous entendez derrière moi. Eh bien, la piste n'était pas assez juste en termes d'équilibre sportif pour donner les mêmes chances à tout le monde et en particulier à Odermatt et Sarrazin. Et puis aussi, en termes de sécurité, elle offrait pas les conditions nécessaires. Ça peut engendrer une blessure quand on descend à 110-120 km/h. C'est donc Marco Odermatt qui remporte aussi le globe de cristal de la descente. 4 globes de cristal pour le Suisse de 26 ans. Ce n'était pas arrivé dans le ski alpin depuis 2001, depuis Hermann Mayer. Et forcément, le clan français est déçu. Pas de globe pour Cyprien Sarrazin qui a quand même fait une saison extraordinaire, notamment avec les 2 victoires en descente à Kitzbühel.
Merci beaucoup Guillaume Batin, donc en direct de Salbach en Autriche. On va maintenant parler de mobylettes, et ça c'est générationnel. Les plus jeunes n'ont pas connu la bleue, la meule, la mob quand il fallait pédaler pour lancer le moteur. Eh bien les nostalgiques de la mobylette se sont donné rendez-vous aujourd'hui à Souston dans les Landes avec plus d'une centaine de mobylettes pour une balade de 44 km autour du lac. Paul Ferrier, vous êtes allé rencontrer l'un des initiateurs de cet événement, c'est le patron du garage Moto Free Ride CC, et c'est à Saint-Paul-les-Dax.
Olivier Scanapieco, 53 ans.
Tout le monde m'appelle Cube, c'est un surnom qui date de l'adolescence. Elle est mobilette, toujours plus gros au niveau des cylindres, toujours des plus gros centimètres cubes, etc. Et depuis, ça me suit depuis l'âge de 16 ans. Quoi.
Dans le garage d'Olivier, normalement, on s'occupe plutôt des grosses cylindrées, mais il nous amène dans l'atelier, et là, dehors, des mobs, celles de participants qui l'y ont amené pour les préparer au rassemblement.
À la base, on devait être une quinzaine. On s'est retrouvés, on était 70 molles. Puis cette année, ben, ça prend une ampleur qu'on n'attendait pas. Quoi. On va se faire déborder.
Dès qu'il monte sur cette vieille mob, Olivier Scanapieco, le quinca replonge dans ses souvenirs d'ado. Sa première meule, il l'a eue à 14 ans. C'était la liberté pour lui.
L'aventure et les copains, quand on partait en groupe, l'autre il tombe en panne. On planquait la mob dans un champ de maïs, on la récupérait au retour.
40 ans plus tard, avec ses copains, cette sensation de liberté est toujours là dès qu'ils enfourchent leur bolide.
Et c'est là qu'on voit qu'on n'a pas pris en maturité en fait. L'autre fois, on est parti faire une balade. Pour X raisons, il y en a un qui commence à se retourner, il accélère un petit peu. T'as l'autre, il arrive, il se porte à sa hauteur, il se regarde. Il y a juste un échange de regards qui se fait. Et tu vois ces deux colons qui se mettent à accélérer, à se taper une bourre. Toi, t'es derrière, tu dis, je peux pas les laisser partir. Finalement, mais il y en a un qui roule plus vite que l'autre. Qu'est-ce que t'as fait de plus sur le moteur? Le week-end d'après, l'autre, il commence à faire des modifications pour essayer de gratter le peu de distance qu'il y avait eu.
Vous êtes encore des grands gamins, quoi.
Grave. Grave.
Voilà, l'esprit sauvage en meule, pourquoi pas, on y croit, comme sur la route 66, reportage Easy Rider, signé Paul Ferrier de France Bleu Gascogne. Le temps.
La météo avec Euromaster, toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Cet après-midi, l'ambiance sera encore bien fraîche.
Oui, mais de saison, même si parfois on sera quelques degrés en dessous, on aura 9 degrés pour la plus basse du côté de Langres en Haute-Marne, 10 degrés à Cherbourg, Lille ou Strasbourg, 11 degrés au Havre, 12 à Paris et 13 au Mans. Quelques degrés de plus sur la moitié sud avec 14 degrés à Cognac, 15 à Biarritz, Toulouse, Bordeaux, 16 à Auch et encore un petit peu plus près de la Méditerranée avec 17 à Montpellier, 18 à Nice et 19 à Bastia.
Oui, ce pourtour méditerranéen où le sol soleil va encore briller largement cet après-midi.
Oui, grâce à un vent soutenu qui va bien chasser les nuages. Du soleil, on en aura aussi un petit peu plus sur l'est de la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, partout ailleurs. C'est un ciel partagé entre nuages, éclaircies, averses, un petit peu comme hier. Des averses sous forme de giboulées. Alors, elles seront un petit peu plus présentes sur le quart sud-ouest et du bassin parisien au nord-est, avec là encore un risque de grésil. On aura toujours de la neige sur les reliefs des Vosges, aux Alpes du Nord et sur le massif central aujourd'hui à basse altitude. Et puis partout, de bonnes rafales de vent, surtout sous les averses.
Céline Dacosta.